Théodora Domenech, Vittorio Santoro, entretien réalisé à Rosascape le 9 juin 2011. Donc Vittorio, tu viens de me faire visiter l'exposition, on a fait un tour, on a eu l'occasion de dire beaucoup de choses. J'aimerais maintenant revenir sur peut-être des thèmes généraux que tu abordes différemment dans ton travail. Là, tu présentes surtout des pièces nouvelles. Il n'y a par exemple aucune pièce où tu écris comme ça, comme un rituel, la chose qui finalement était le plus connu ou qu'on associait le plus directement à ton nom, de ce rituel d'écriture comme ça où on repasse toujours sur les mêmes lettres. Est-ce qu'il y avait un choix de vouloir déjà tourner la page de ce côté-là?
Non, c'est pas que je voulais tourner la page, mais je voulais montrer des pièces que moi j'appelle des script works. Et des script works sont des pièces que les autres font, ils participent à la pièce, si tu veux. Ces script works, la majorité de ces pièces qui sont ici cette fois sont seulement des script works. Et les autres pièces que tu as mentionnées sont des time-based works. Mm-hmm. Sont des textes que j'ai écrits chaque jour pour la durée de 6 mois. Et comme ça, c'est une sorte de, oui, de performance, de rumination philosophique, si tu veux. Peut-être tu peux dire que ça c'est un exercice intellectuel ou simplement c'est quelque chose que je répète chaque jour. Mais moi, je n'aime pas cette façon que les gens pensent que je répète la phrase, mais j'insiste sur la phrase. Qui pour moi est peut-être, oui, c'est un petit peu différent. Et cette pièce que j'ai conçue pour Rosascape, ce sont des pièces que j'appelle script works, parce que les pièces ils sont activées par une autre personne qui participe à la réalisation de la pièce. Et ça, c'est important.
Et pourtant, c'est des pièces qui parlent beaucoup de la solitude, par exemple dans la chambre du penseur, même l'allusion au bateau qui quitte le port. Il y a comme ça, c'est le calendrier, par exemple, il note une phrase avec à chaque fois des lieux visités différents. Et quand on le regarde, il est très uniforme, il est habité de beaucoup de vide. Mm-hmm. Donc finalement, aussi dans les pauvretés des matériaux, le choix d'une légèreté. Est-ce que là, il y a malgré tout une solitude qui reste comme un trait?
Je pense, oui, tu penses que c'est une solitude, mais pour moi, peut-être, c'est une façon, tu sais, de concentration. C'est un moment de concentration. Peut-être tu peux dire ça, que c'est la solitude, mais c'est un moment qu'on décide de faire quelque chose, you know. No, I never really saw it in this way, that, you know, it's a moment that you have to be alone with yourself and that, you know, you don't want to be in touch with life but with yourself. No, I never thought it this way, yeah.
Parce que moi, en fait, j'associais ces rituels d'écriture et de répétition, justement qui ne s'en sont peut-être pas, mais à un mouvement de tourner en rond dans une pièce, par exemple, quand on cherche une idée, plutôt comme une attente de quelque chose qui vienne tout d'un coup, qui nous réveille, comme un blitzschlag.
Blitzschlag. Non, cette pièce que tu mentionnes, le time-based work, j'ai commencé cette pièce parce que j'ai vu, tu sais, autour de moi des autres artistes, des autres gens qui font des pièces un petit peu très grandes, très lumineuses, très I don't know what. Et je me suis demandé, est-ce que c'est encore possible pour un artiste de faire une pièce forte avec une pièce de papier et une pencil, comment on dit ça ?
Crayon.
Un crayon. Est-ce que c'est encore possible ça ? Et je voulais aussi que cette idée que tu te mettes, tu sais, dans une situation où tu as je me dis, ok, j'ai choisi une phrase. Je la mets sur cet papier qui peut être petit ou grand, et j'écris cette phrase chaque jour sur le même papier, on the same spot, pour 6 mois. J'ai imaginé que cet acte d'écrire la chose, cette phrase pour cette fois, c'était pas, comme j'ai dit, une répétition, mais peut-être c'était une façon d'échapper au cynisme. Je m'explique. Je voulais que j'étais... I just wanted to engage in a simple act as to write something and to believe in something even for 6 months, even if it would be just a simple sentence on a piece of paper. And when I say I want to escape cynicism, is because I wanted to believe in something that maybe has no meaning or no value. You know, for me, you know, d'écrire cette phrase 6 mois, c'est pas une façon de penser métaphysiquement à la vie, à ma vie, à la société, je sais pas quoi. C'est seulement, it's just an engagement. It's the act of the engagement que c'est important pour moi. Mais bien sûr, toi, tu peux, la personne qui voit ça, tu peux interpréter ça comme, tu sais, une rumination philosophique, ou tu peux interpréter ça comme une petite performance, ou comme un exercice intellectuel. It doesn't matter. Mais la chose qui m'a plu dans ces travaux, et que c'est quelque chose de très, tu peux dire, conceptuel, si tu veux, je n'ai pas ce mot, conceptuel, mais qu'il y a des traces qui sont très sensuelles, si tu veux. Mmh. Yeah.
Mais dans ce cas, oui, c'est sûr, je n'allais pas utiliser conceptuel. Ouais. Souvent, tous les artistes qu'on qualifie de conceptuel rejette ce concept.
Je n'aime pas ce mot non plus.
Mais dans ce cas, est-ce que tu t'affilierais par exemple au mouvement de l'arte povera, ou dans des formes de chercher, de travail de l'écriture comme dans un matériau presque sculptural ou des choses comme ça?
Moi, je ne pense pas que j'ai des affinités à l'arte povera, mais... je voulais dire quelque chose, j'ai oublié.
Bah, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est le fait de déplacer le... Bon, c'est effectivement la répétition d'une phrase, mais c'est pas n'importe quelle phrase.
Oui.
Quand on a...
Oui, ok.
Je reviendrai sur le titre.
Après. Yeah, it's not just one sentence. But you know, I don't want that the sentence is the main thing in the work. Because all the elements in the work, in this time-based work that you apparently like so much.
Je pensais aussi quand même, c'est quand même une répétition quand on demande à une série de personnes d'écrire la même phrase, ou quand on la dit à haute voix dans différents lieux, mm-hmm. Il y a toujours cet aspect processuel. Enfin, qu'on l'écrive ou qu'on l'écrive pas, il y a quand même quelque chose qui demeure. Oui. Là, je pense.
But is it that maybe, you know, I ask people to engage in something, even if it's just a little 5 minutes to just to write this sentence? It's an engagement, because today to write a letter, to post it, is really an act, you know. And I just like to think that I will give this person 5 minutes, 10 minutes to engage in this kind of work that has not really any importance. It has it for me, because at the end I will have the letters and this will be the work. But it's just a way to give somebody these 5 minutes and to think about something that has practically no value.
Est-ce que, dans ce cas, plutôt que de mettre trop de sérieux en parlant de conceptuel ou de rumination philosophique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre aussi de la qui frise l'absurde, le jouer avec un sentiment d'éphémère, de légèreté, de...
Peut-être, tu dis absurde. J'ai beaucoup étudié ce concept, tu sais, de l'absurde, mais je ne pense pas. Je pense que je veux donner aux gens la sensation que même s'ils ne font pas quelque chose qui a dans notre société une valeur, tu sais, que chaque chose que tu fais, chaque acte que tu fais est très important, chaque jour. Et même si c'est un tout petit geste d'écrire une petite phrase dans une lettre. Parce que je pense que chaque chose que nous faisons, chaque acte que nous faisons, va avoir une répercussion. Sooner or later. Comment on dit ça en français? Sooner or later.
Maintenant ou plus tard.
Oui, maintenant ou plus tard.
Mais les titres, ce ne sont pas seulement, donc je reviens sur ces titres, qui ne sont pas seulement des petites phrases, mais qui sont elles-mêmes très lourdes. Parce que c'est comme s'il y avait une association de beaucoup de choses qui étaient condensées là.
Et lesquelles phrases tu parles?
Soit le silence détruit les conséquences, soit le titre là, qui donne le titre de l'exposition, que tout le monde vive comme si personne ne savait, avec ces guillemets qui donnent un aspect...
Cette phrase, la majorité des phrases sont pas des phrases que j'invente moi-même, même s'il y a, mais ce sont des phrases que j'ai empruntées à des choses que j'ai lues, ou à des choses que j'écoute à la radio, ou je lis dans les journaux, ou je vois dans les supermarchés, ou quelque chose. Mais si tu prends cette phrase dans un contexte et tu la mets dans un autre contexte, et tu l'écris, juste par exemple, l'écrire pour 6 mois, bien sûr, les gens vont penser que la sémantique de cette phrase va, en cette façon, changer, va avoir une aura. Comment dire ça ?
Une aura.
Aura. Pour retourner à la phrase, chacun vive comme personne ne savait. Je suis sûr que tu connais d'où vient cette phrase. Il vient du mythe de Sisyphus, de Albert Camus. Et je pensais, je suis un petit peu fan de ce livre, même si je pense que c'est un livre très difficile. Mais non, c'est pas difficile, mais it's engaging. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Engaging.
Engageant.
Oui, engageant.
Je ne sais pas si on dit vraiment ça en français.
Engaging. Et j'ai trouvé cette phrase, et c'était exactement une des phrases que j'ai réputée très juste pour ce genre de travail. J'explique le travail, c'est aussi une script works, et c'est un script works qui va être activé par la personne qui va montrer cette pièce ou par la personne qui achète cette pièce. Ça veut dire que chaque fois que cette pièce va être activée ou réincarnée, si tu veux, la personne il doit lire un journal de son choix. Il peut être Le Monde, The New York Times, Frankfurt Allgemeine Zeitung, NZZ, Libération, etc. Et lire ce journal et à partir des articles que cette personne répute importants pour elle ou pour lui, qui est dans une façon ou une autre, tu sais, cet article l'ont l'ont mis en contact avec notre société, notre monde, les mondes des idées, les mondes des faits divers. À partir de cet article, ils découpent les lettres qui vont former cette phrase que tu viens de dire. Et cette phrase, il doit être collée, spécialement dans cette pièce, dans la fenêtre, dans les vitres d'une fenêtre, et pas dans un papier. Ça veut dire que si tu veux transporter la pièce, tu la dois détruire. Ça veut dire que tu la dois réanimer une autre fois.
Mais le fait que ça soit sur une fenêtre plutôt que sur un mur, par exemple, est-ce que ça engage la question de la transparence du langage, de la
Non, ça peut. Oui, bien sûr aussi, mais aussi j'ai pensé que c'est une petite phrase, une petite statement que quelqu'un dit peut-être dans son in his environment, dans son environnement. Elle est dit à un public imaginaire qui est au dehors de la fenêtre, qui peut-être c'est la maison à côté, c'est les gens de à côté. Ça, c'était mon idée.
Il y en a beaucoup des publics imaginaires, parce que même quand tu recites Silence Destroys Consequences comme ça dans la rue ou dans un musée, il y a aussi, même s'il n'y a personne autour de toi.
Oui, exactement. Parce que je me suis dit, est-ce qu'une pièce existe seulement quand elle est montrée dans un musée, dans une galerie, écrite dans un journal, écrite dans un livre, ou écrite avec les néons et mise dans un immeuble? Est-ce que c'est seulement ça, la pièce? Est-ce que la visibilité de la pièce, l'intelligibilité d'une pièce a besoin d'un support? Et c'est comme ça que j'ai décidé de dire cette phrase dans la rue, même si dans la rue, dans la métro, dans un cinéma, même si il y avait quelqu'un. Comment dire en français? Even if it was nobody there to listen to me, you know, and if it doesn't matter, but it doesn't matter that the piece didn't exist because nobody listened to it. For me, it existed, and this is important, and it's enough. But at the moment, at the end, I put down this on the planificateur, you know. So, what is the piece? Is it the piece, les planificateurs, les photos que j'ai fait chaque fois que j'ai dit cette phrase, ou le moment où que j'ai dit cette phrase? What is the piece? Maybe it's a combination of all of this.
Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur l'installation dans la forêt d'Hermenonville, l'idée que l'œuvre soit surtout une œuvre mentale.
Il peut aussi être une œuvre mentale, parce que c'est exactement ça, parce que cette pièce qui s'appelle Across the Rivers and Into the Trees, ça c'est aussi une citation, si tu veux, Across the River and Into the Trees, c'est une pièce où j'ai décidé de faire fabriquer une plaque en aluminium avec deux textes gravé, une dans la partie verso, l'autre dans la partie recto. Dans la partie verso, c'est la phrase en anglais, Silence Distorts Consequences, et dans la partie recto, c'est la traduction en français. Et après, j'ai demandé à quelqu'un de la porter dans la forêt d'Hermenonville et de l'accrocher à un arbre que cette personne voulait. You know, any trees, it doesn't matter which one. Et de me dire exactement avec un GPS où de faire les trajets du Panthéon de Paris jusqu'à la forêt d'Hermenonville et jusqu'à cette branche de cet arbre. Et de noter minutieusement comme il fait d'aller du Panthéon à cette chose. Après, tu te dis, mais la pièce, c'est quoi? C'est cette édition avec, tu sais, la carte où on peut trouver la pièce ou la photo qui est de l'arbre avec la pièce ou les choses mentales que tu fais, tu sais, les voyages mentaux que tu fais. C'est de nouveau une combinaison de trois choses.
Et l'utilisation des références qui sont toujours cachées, comme ça, le fait qu'on ne sache pas d'où viennent les phrases.
Parce que je ne pense pas que ce n'est pas vraiment important, parce que c'est... le titre de cette pièce vient d'un roman de Hemingway. Mais ça, c'est une chose vraiment idiosyncrite. Comment on dit ça en français? Idiosyncrasique?
Oui,
it has no real reason, you know, to that, you know, that the name Hemingway is part of the piece. So, et cette phrase, la silence destroys consequences, je me rappelle plus si c'était moi qui ai inventé cette phrase, ou si je l'ai vu dans sa livre, où je l'ai mis, tu sais, comment on peut dire ça en français, c'est une phrase composée. Je dois être vraiment, je me rappelle plus.
Mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase?
I could ask you.
Justement, là, en parcourant ton site, j'étais tombée sur une citation qui m'a bien plu de Schopenhauer, qui disait « L'espace est la condition de possibilité de la juxtaposition. » Cette idée que, finalement, on sort du registre du référent.
Excuse-moi, c'est pas la juxtaposition, c'est les juxtapositions.
D'accord.
You know, c'est le pluriel. C'est ça en français, pluriel.
Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'utilisation du langage et de sa spatialisation, mm-hmm. que ce soit en le disant ou en l'inscrivant sur de l'aluminium ou sur des différents supports. À chaque fois, le support est aussi porteur de signification, peut-être davantage que la pièce, etc. Mm-hmm. Et que dans cette répétition, il y a aussi une variation infinie. De la signification même de cette phrase, mm-hmm. qui est sans cesse en fait la même et altérée par ces conditions spatiales. Mm-hmm. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait référence à l'Arte Povera, où je rapprochais plus ce travail du langage, moins de la poésie mais plutôt de la sculpture. Mm-hmm. Est-ce que cette dimension de la signification, enfin cette question de la signification ou la réflexion sur le langage, est-ce que tu as habité
Oui, ça c'est une très bonne question parce que les personnes pensent que, messieurs sont libres de penser, que pour moi, tout ça, le langage a une très grande signification. Et pas seulement le langage, mais tout ça, les meanings, le sens du langage. Mais je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'avec mes textes, j'essaye de construire le langage et de construire la sûreté sur le langage. Parce que nous avons l'impression que le langage est la seule
voie d'expression.
Oui, est la seule précise, mm-hmm. Une voie d'expression.
Adéquate.
Oui, mais moi, peut-être, je ne suis pas vraiment sûr de ça. Et c'est pour ça que le langage m'intéresse, pour les déconstruire. Et comme tu as dit, je trouve ça vraiment très bien. I use language like I would use it for a sculpture. It's just a material that I use it for a sculpture, because if you see a sculpture, you can see it from right, left, from above, from I mean, you can go around. Of course, it's the same thing, but what it changes is the perception of it. So I would really like that, you know, depends how the way your mind function, it could have this meaning or some other meaning. Of course, we are used to believe that a sentence, one word has only one meaning, you know, and this is because we want it to be this way. But I don't want to rely only on language. I just want to show that you have other meanings to participate in a certain kind of engagement with the world.
Et mais dans tes références quand même, ce sont que des auteurs. Ce sont surtout des écrivains.
Non. Comme j'étais dit avant, ils sont des phrases que j'ai inventées moi-même. Ou que je vois dans le supermarché, ou je vois à la que j'entends à la radio, ou bien sûr que j'ai lu dans des livres. Mais c'est pas seulement que j'ai lu tout ça, Albert Camus du matin au soir, et j'emprunte les phrases parce que j'ai pas des idées et comme ça. Non, parce que j'ai l'impression que cette phrase que je trouve sont exactement les phrases que je veux. Ça, c'est une raison. Et la deuxième raison, je ne veux pas que les gens pensent « Oh, Vittorio invente ces phrases. Ah, c'est vraiment... Il rumine beaucoup. » It's not about me, you know. It's about the object.
Il y a beaucoup d'effacement de la subjectivité.
Oui. Ça, c'est vrai. Et je veux ça.
Merci. Vittorio Santoro présente à Rosascape une série de scriptworks qui sont des pièces activées par d'autres personnes à partir d'une règle imposée par l'artiste. Ces personnes deviennent donc co-auteurs d'une pièce. Il faut insister sur le fait que chaque pièce, quel que soit le nombre de ses éléments, constitue une seule œuvre et non plusieurs, ce qui lui donne son unité. C'est moins le script lui-même que la notion d'acte et de participation à un processus commun. L'œuvre n'est jamais réductible à l'objet qui la compose, sans que pour autant cet objet ne soit qu'un prétexte pour illustrer des réflexions théoriques, conceptuelles, etc. Tout d'abord, l'œuvre se compose rarement d'un seul objet. Généralement, il s'agit plutôt d'une mise en scène ou d'un dispositif composé. Ensuite, dans le cas des objets uniques, ceux-ci sont toujours porteurs de la trace d'interventions passées. L'objet est un support, non pas pour exposer une idée qui se suffirait et à elle-même, mais un support à la réactivation de l'œuvre. L'œuvre est ainsi une totalité, qui prend en compte le domaine de la pensée, autant que le travail sur la mise en espace des objets, mais dont l'essentiel se trouve dans l'acte, et la notion d'activation d'un script. Le spectateur participant est invité à se demander de quelle nature est cet acte, et ce qui en garantit l'unité, malgré l'extrême diversité des participations. Vittorio Santoro nous incite à réfléchir à la notion de communauté dans la création, communauté d'auteurs, de médium. Il insiste sur l'idée qu'une œuvre n'a pas d'existence en soi, mais est appelée à être réactivée. De manière analogue au time-based text works, une série d'œuvres qui consistait à décrire de façon répétitive une même phrase durant 6 mois, la réactivation n'est pas une répétition du même. Ainsi, ce qui fait l'unité entre les différentes pièces et entre les différentes lettres qui les composent n'est pas le script, puisque celui-ci est à chaque fois le même, mais l'acte, un acte qui, par la répétition, est amplifié, renforcé. De même que Vittorio Santoro disait « Je ne répète pas la phrase, j'insiste sur la phrase », l'acte n'est jamais le même. Chacun est unique, singulier. Ce qui réunit donc les actes des participants, c'est l'unité entre le script et l'expression d'une singularité, selon des modalités particulières. Cette singularité de l'acte constitue l'œuvre et appelle celle-ci à se perpétuer avec une intensification constante, une intensification laissée à la charge de tout participant potentiel, c'est-à-dire au fond de tout spectateur. Prenons l'exemple des lettres. Vittorio Santoro demande à des personnes d'écrire sur une lettre la phrase suivante « Silence destroys consequences » en ajoutant la date et le lieu de la rédaction. On retrouve souvent dans ses œuvres la mention de la date et du lieu dans lequel elle a été créée, réalisée ou le script activé. Cette indication renvoie à la dimension insubstituable et unique, donc éminemment singulière, de la réalisation. Elle correspond par ailleurs à des informations personnelles qui nous sont livrées par les participants, la même phrase pouvant être copiée d'une façon et dans un environnement très différent. Qualité du papier, épaisseur du trait, place des lettres sur la page. La singularité qui s'exprime n'est pas seulement de l'ordre de la position spatio-temporelle, mais de l'ordre de l'intime. On peut y déceler en effet une expression de timidité, d'arrogance, d'enthousiasme, d'indifférence, de gêne aussi parfois. Par ailleurs, les noms propres ne sont pas cachés, et on peut même penser que les lettres sélectionnées à l'occasion de cette exposition ont été choisies en fonction des participants. Beaucoup de noms nous sont familiers. On y reconnaît par exemple certaines des personnes présentes au vernissage, ce qui amène ainsi à franchir la limite entre le regardant et le regardé. J'aurais pu être dans le lot de ces lettres, puisque j'étais moi-même présente, et en un sens c'est comme si j'y étais, mais qu'on ne me voyait pas. Je m'imagine que je réponds à la commande. Je réactive le processus dans ma tête. Et moi, qu'est-ce que j'aurais écrit? Est-ce que j'aurais cherché l'effet de style? Est-ce que j'aurais laissé l'enveloppe sur mon bureau et jamais envoyé comme la plupart de mes lettres? Vittorio Santoro provoque la réactivation mentale d'un acte simple, un acte gratuit, un acte libre, et d'autant plus libre qu'il obéit à des règles élémentaires. Cet acte peut s'accompagner de gestes ou bien ne constituer qu'un acte mental. La question de la réactivation de l'œuvre et du parcours mental est présente également dans la pièce Erased Contributions, comme elle l'est dans le projet que l'artiste a réalisé dans la forêt d'Ermenonville. En fait, on la trouve dans presque toutes les œuvres présentées à Rosascape. Le statut de The Man Living Elbow on a Ship in a Room est peut-être plus particulier. Durant mon entretien avec Vittorio Santoro, nous nous sommes intéressés seulement un instant sur le rôle de l'imaginaire dans l'appréhension et la définition d'une œuvre d'art. Ce qui me conduit à prendre cette question comme fil directeur, c'est qu'elle est étroitement liée au problème de la place laissée à l'expression singulière du spectateur participant, c'est-à-dire sa part de liberté. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'expression de la singularité ne signifie pas pour le spectateur de faire dire tout et n'importe quoi à l'œuvre qui est devant lui. Vittorio Santoro ne laisse qu'en apparence la voie ouverte à toutes les interprétations possibles de son œuvre. C'est d'ailleurs une chose qui m'a beaucoup surprise lors de cet entretien. À chaque proposition d'une piste de lecture, la première réponse de Vittorio Santoro est non. Ou encore, tu peux interpréter ça comme ça, mais... Et il rejette l'interprétation. Par la suite, j'ai compris que ces non sont présents partout dans son travail. Sans cesse, Vittorio Santoro pose des obstacles sur notre chemin d'interprétation. Mais des obstacles qui en quelque sorte nous guident. L'artiste ne rejette pas une interprétation parce qu'elle ne correspondrait pas à son intention. Il rejette les interprétations trop faciles et qui finalement ressassent des idées déjà faites ou projettent des catégories de pensée trop communes. Ainsi, par les détours auxquels Vittorio Santoro nous oblige, nous sommes amenés à penser qu'il existe plusieurs manières d'exprimer sa singularité. C'est comme s'il s'agissait de nous inviter à faire varier cette modalité d'expression grâce aux obstacles mis en place et au travers du principe de réactivation mentale. L'imagination est une faculté considérée tantôt comme le fondement ou l'entre-deux ou le dérivé de la sensibilité et de la raison. De ce fait, elle n'est pas uniforme, mais on peut se concevoir de multiples façons. Dans toutes ces conceptions, on retrouve comme donnée commune l'idée d'une production de formes nouvelles à partir de données antérieures. L'expression de la singularité est du même ordre. À partir de ce que je suis, c'est-à-dire de ce que j'ai vécu, ressenti, pensé, je produis quelque chose d'original et de nouveau. Mais cette production peut prendre des formes diverses. Nous en retenons trois. Tout d'abord, le registre de la fiction. Il s'agit de réutiliser des éléments de perception passée pour les actualiser dans une forme composée. Nous pouvons alors parler de combinaison ou d'association entre ces éléments. Une chimère, par exemple, est la combinaison d'éléments du réel qui s'assemblent de manière à produire de l'étrangeté. Mais l'imagination ne concerne pas seulement la fiction. Elle joue un rôle dans la perception immédiate des objets. Dans la conception kantienne classique de l'imagination, la faculté d'imaginer consiste à faire une synthèse des différentes impressions recueillies par les sens, afin de produire la forme permettant d'identifier, à partir de ces impressions diverses, des objets déterminés. Il ne s'agit plus de composition ni d'association, mais d'unification synthétique. Il existe encore un troisième genre d'imagination. Celui-ci nous intéresse plus particulièrement dans la mesure où, dans ce cas, les données préalables sont à tel point transformées qu'elles disparaissent au profit de l'avènement d'une forme autonome. Cette forme d'imagination se rapproche d'autant plus du travail de Vittorio Santoro que celui-ci utilise souvent la méthode d'effacement des sources, effacement de sa propre singularité, des références qu'il utilise, des motifs qui ont conduit à l'élaboration de ses pièces, etc. Il n'est plus question ni de combinaison ou association d'éléments à coller les uns aux autres, ni d'unification synthétique, mais de condensation. L'expression vient de la psychanalyse et elle renvoie à l'action inconsciente qui consiste à former une représentation à partir de plusieurs, de telle sorte que les premières représentations ne soient plus reconnaissables. Ces représentations résultantes sont des images mentales nomades. Sans entrer dans le détail de ce concept et ses implications dans le registre de la psychanalyse, utilisons-le simplement comme une expression dans ce qu'elle évoque. L'image mentale renvoie à la faculté d'imaginer. Nomade fait référence à l'effacement des repères et du passé, l'effacement aussi de la sécurité. Être nomade, c'est avancer sans savoir d'où on vient ni où on va, mais donner toute son attention au présent de l'action qui consiste à avancer. D'une certaine manière, la seule subjectivité qui a sa place dans l'œuvre de Vittorio Santoro est celle de l'action. L'action mentale s'oppose ainsi à ce que serait une simple représentation mentale. Peut-être n'est-il même pas question d'interpréter l'œuvre, sinon pour rencontrer un refus toujours réitéré qui nous invite à relancer nos efforts dans une recherche sans fin. En nous quittant, Vittorio Santoro me raconte une anecdote et me dit « Je ne veux pas que mes œuvres soient hermétiques, simplement je refuse de dire quelque chose que l'on sache déjà. » L'essentiel serait donc de se sentir investi et engagé dans un acte simple et gratuit. Toute interprétation qui laisserait retomber la dynamique de marche fera face à un refus, le refus de la stabilité, opposé à un besoin incessant de mouvement. En ce sens, ces obstacles et refus qui tiennent en éveil la dynamique sont conditions de liberté. Même si l'acte qu'il nous est proposé d'accomplir est un acte mental, il n'en est pas moins un acte dynamique, donc singulier, et un acte libre.